Chapitre 6e. Le coup des gendarmes. Cette fois, je devais non suivre le roi des détectives et son second, mais voir seulement comment ils allaient opérer et remplir l'office de guetteur pour les renseigner. Je devais descendre dans la cour et me poster sur le toit du garage. Là, m'aplatissant autant que possible, surveiller ce qui se passerait sur la route et ne pas perdre de vue ce que feraient les deux bandits veilleurs. Pendant ce temps, Martha Numa et Prosper partiraient par le fond du petit jardin, feraient le tour de la propriété et regagneraient la route l'un par la droite, l'autre par la gauche. De cette façon, ils boucheraient le passage d'un côté ou de l'autre aux malfaiteurs et les empêcheraient de fuir, car comme la première fois, ils étaient venus à bicyclette. Avec des précautions infinies, je parvins à sortir de la maison sans éveiller l'attention de l'homme qui faisait le guet devant la porte et que je pus apercevoir en me glissant entre les massifs du jardin. Je passai dans la petite cour devant le garage. Fort heureusement, le chien me connaissait et ne donna pas de la voix en me voyant. J'appliquai une échelle au rebord du toit et je me hissai sur les briques. Là, à plat ventre, je parvins jusqu'au bord qui surplombait la route. En bas, appuyé contre le mur, se trouvaient les deux bicyclettes des malfaiteurs qui avaient pénétré dans la maison. Elles attendaient leur maître, mais elles pouvaient les attendre longtemps. La première fois, c'était l'homme qui veillait sur la route qui gardait les bicyclettes. Cette fois, probablement pour aller plus vite et sauter en selle plus promptement en cas d'alerte, on les avait placées là. Il y avait cependant, à une centaine de mètres en avant, un veilleur qui, comme la première fois, montait la garde sur la route de Fontainebleau. J'étais fort mal à mon aise sur ce toit tout mouillé et exposé à tous les vents, car vous vous en souvenez, il faisait un temps épouvantable. Aucune rafale ne m'était épargnée, et les averses me fouettaient, me pénétraient comme des aiguilles. Cependant, je restais à mon poste, très anxieux, très pris par tout ce drame, et pour rien au monde, je n'aurais cédé ma place. Tout à coup, l'homme qui veillait en avant se mit à courir, tenant son vélo par le guidon. Il vint à celui qui guettait à la porte de la villa, à quelques mètres au-dessous de mon poste d'observation. Ils parlaient rapidement à voix basse. Ils regardèrent dans la direction de Fontainebleau et se montrèrent tout à coup très perplexes, très inquiets. Au tournant de la route, apparurent à ce moment deux hommes à cheval, allant au trot et bien serrés dans leurs grands manteaux. Celui qui veillait à la porte de la villa saisit aussi son vélo. Mais avant de monter en selle, il approcha un sifflet de ses lèvres et lança un son qu'il modula d'une certaine façon. Puis, lui et son compagnon, ils attendirent, regardant plus attentivement encore les cavaliers qui maintenant venaient dans notre direction. Les cavaliers relevèrent la tête. Je vis briller la visière des képis, et à la silhouette spéciale et caractéristique, je reconnus deux gendarmes. Le compagnon, une seconde fois, lança son coup de sifflet. N'obtenant pas la réponse qu'il espérait sans doute et devant le rassurer, il entra dans le jardin et de toutes ses forces il siffla, mais d'une autre façon, emplissant la villa de son sifflet strident. C'était le signal convenu pour avertir du danger les camarades qui opéraient, qui nous assassinaient. Puis il revint à son compagnon. Celui-ci, le voyant revenir, n'attendit pas davantage. Il sauta en selle et fila de toute la vitesse de ses jarrets. L'autre ne tarda pas à en faire autant. Mais les gendarmes, d'abord surpris, accouraient au galop, ayant maintenant acquis la certitude qu'ils venaient, sans s'y attendre, de troubler des malfaiteurs dans leur besogne criminelle. Les premiers coups de sifflet des bandits étaient pour demander aux gendarmes qui arrivaient s'ils étaient de vrais ou de pseudo-auxiliaires de la loi. Les malfaiteurs, en effet, pouvaient croire que leur chef, ayant appris qu'un danger tout à coup s'annonçait, ou ayant cru bon de prêter main forte à leurs hommes, pouvaient croire, dis-je, que leur chef venait à eux sous ce déguisement. Car la présence de gendarmes, à cette heure, par ce temps, paraissait plutôt anormale. On nous en donna la raison plus tard. Mais n'ayant pas entendu la réponse à leur sifflet qui leur annonça l'arrivée non d'ennemis mais de compagnons, les bandits, pressentant le danger, pensèrent à fuir et à donner l'alarme à ceux qui se trouvaient dans la villa, en train, croyaient-ils, de débarrasser le monde criminel du terrible roi des détectives, de son second Prosper et de leur historiographe Courville. Mais de mon côté, ou plutôt sur mon toit, voyant les bandits fuir et pensant que Prosper ni Martha Numa n'arriveraient pas à temps sur la route pour les suivre, il me passa par la tête, cependant joliment rafraîchi sous les averses, de me mettre à leur poursuite et de voir où ils allaient se réfugier de ce côté. Il ne me déplaisait pas non plus de me dégourdir un peu, de quitter ce poste d'observation aussi désagréable. Le toit du garage n'était pas bien haut. Je me suspendis par les mains au rebord du zinc et je me laissai ensuite tomber à terre, à 2 mètres à peine des bicyclettes appuyées au mur. Prendre la première qui s'offrit, sauter en selle et filer, fut l'affaire de quelques secondes. Mais les gendarmes m'avaient aperçu. « Cours, Marollet !» cria l'un d'eux, le brigadier. « Cours après, je viens te rejoindre !» Marollet s'élança au galop derrière moi et me donna la chasse. Moi, je me souciais peu de Marollet. Je m'efforçais de rejoindre les deux malfaiteurs qui avaient sur moi une trop belle avance. Le brigadier donna des coups de poing sur la porte. « Hé là, de la maison ! Réveillez-vous, mille tonnerres ! Vous n'entendez rien ? Hé là ! Hé là !» Ce tapage finit par tirer de leur sommeil nos hôtes si aimables, si confiants, qui dormaient si heureusement. Le mari, effaré, ne comprenant rien, ouvrit la croisée de la chambre. « Quoi ? » fit-il. « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est ? Faut-il tout de même que vous en ayez un sommeil ? Comment ? Qui est là ? Le brigadier de gendarmerie. « Hein ? Les gendarmes ? Pas pour vous. Seulement on a cambriolé chez vous. »« Cambriolé chez moi ? Vous dites cambriolé ? Parfaitement. » « C'est un peu fort. Oui, oui, allez voir ça. Moi, je cours rejoindre mon subordonné qui donne la chasse à vos cambrioleurs. »« Merci, brigadier, merci. » Notre hôte ferma la croisée pendant que le brigadier remontait en selle et partait au galop. Il rejoignit sa femme et lui dit « Cambriolé, chez nous. » « Je sais ce que c'est. Encore quelques tours de Martin Numa. »« Tu crois ?» demanda la jeune femme. « Parbleu, j'en suis sûr. » C'est comme le jour du vol de l'auto, tu te souviens ? Mais si le brigadier avait raison cette fois, si on a réellement cambriolé chez nous, allons donc, ce serait invraisemblable. Des gendarmes arrivés au moment du méfait, ça ne se verra jamais. Il vaut mieux dormir bien au chaud et bien tranquille. Et sur ce, rassuré, notre hôte, très tranquillement, se replongea dans son paisible sommeil. Moi, je roulais de toutes mes forces derrière ces hommes qui gagnaient cependant sur moi, beaucoup moins entraîné qu'eux, étonnamment, de terrain. Tout à coup, une secousse. Ma machine, qui d'ailleurs n'était pas de ma taille, fit un saut, puis dérapa et je fis une chute violente en plein sur la route. Pendant un assez long moment, j'en demeurais comme étourdi, presque assommé, ayant sinon tout à fait perdu connaissance, du moins oublié l'usage de mes membres. Je restais là, étendu dans la boue, incapable de bouger, de faire le moindre mouvement, le visage écorché, plein d'éraflures, les mains abîmées et les vêtements déchirés. J'étais dans un état absolument pitoyable. Cet état douloureux dura 2 ou 3 minutes. C'était la belle pelle, selon le terme consacré en sport, la pelle dans toute sa splendeur. Pendant ce temps, les deux gaillards que je poursuivais prenaient une avance qu'une auto maintenant aurait eu peine à rattraper. Les suivre, je ne devais plus y penser. D'ailleurs, quand je pus retrouver l'usage de mes sens, je ne songeais plus à les rejoindre. C'était impossible. J'en avais le sentiment. Je rageais plutôt contre moi-même et je me disais que c'était vraiment bien la peine d'avoir gelé sur un toit, d'avoir entrepris cette course folle, de vouloir enfin rendre service à mon ami Martin Numa pour échouer aussi piteusement sur la grande route dans la boue. Je vis avec quel sourire ailleurs Martin Numa accueillerait mon récit désolé, mon reportage verbal. Et je trouvais cela parfaitement ridicule. Mais je n'eus fort heureusement pas le loisir de me tenir plus longtemps dans de si sombres réflexions. Le galop d'un cheval lourd retentit dans des clapotements de boue à faible distance de moi, et je vis arriver sur moi le brave gendarme Marollet. Non sans peine, après m'être tâté, m'être assuré que je n'avais rien de cassé, que tout en somme était intact et seulement abîmé à la surface, que rien de démoli ne devait m'arrêter plus longtemps, non sans peine, dis-je, et non sans douleur, j'étais parvenu, mais dans des poignées, à me retourner et à m'asseoir sur la route, à même le sol, dans la boue. Assis, endolori, je regardais venir Marollet. Quand le brave gendarme fut à quelques mètres de moi, il retint son cheval et il me cria « Arrêtez-vous !» Je ne compris pas tout d'abord, et je continuai à me frictionner les bras et les jambes, à chercher à bien me rendre compte que les dégâts en somme n'étaient pas si graves que je pouvais le redouter. « Arrêtez-vous au nom de la loi !» me cria de nouveau Marollet. M'arrêter, m'arrêter, cesser, m'arrêter de me frictionner, ce ne devait être que cela. Marollet ne pouvait supposer que dans cette position, assis dans la boue, je pouvais chercher à fuir. Même un cul-de-jatte de naissance s'y serait refusé. Cependant, Marolais, ayant fait venir son cheval jusque sur moi, encore une fois me cria « Arrêtez-vous !»« Il ne faut jamais, c'est un corollaire du dicton de la prudence, il ne faut jamais discuter avec un gendarme, et il est plus sage d'obtempérer immédiatement à l'ordre de ce militaire qui représente la loi. Donc, à ce nouveau commandement, aussitôt ne le jugeant pas, ne l'analysant pas, j'obéis complètement. Je fis un effort, me rappelant mon service militaire, je joignis comme je pus mes talons et tout en demeurant assis, ne bougeant plus, je levai en l'air les deux mains pour montrer que je ne me frictionnais plus. Je m'arrêtai de nouveau complètement. Marolais me regarda. « Vous êtes arrêté ?» me dit-il. « Oui, gendarme. »« C'est bien. Maintenant, au nom de la loi, je vous arrête. » Je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne doit jamais discuter avec un gendarme, et il ne faut en aucune circonstance plaisanter avec la loi. Le gendarme Marolais ordonnait à un homme, dans l'impossibilité non seulement de fuir, mais de faire un mouvement de s'arrêter, et quand cet homme ne bougeait plus, il l'arrêtait au nom de la loi. C'était bien judiciaire, bien militaire, bien réglementaire, c'était parfait. Donc, m'ayant arrêté au nom de la loi, le gendarme se tint devant moi, majestueux, imposant, raide sur son cheval, et le cheval, ayant bien galopé, fumait. Ce qui faisait apparaître Marolais dans un nuage, de vapeur, tel un Jupiter, en uniforme. Maintenant, eut-il la complaisance de me renseigner, maintenant nous n'avons plus qu'à attendre le brigadier. C'est bien, fis-je, attendons le brigadier. Et comme il ne disait plus rien, j'eus cette audace de lui demander « Maintenant que vous m'avez arrêté, est-ce que je puis baisser les bras ?» Brave homme, le gendarme eut cette condescendance. « Oui, » me répondit-il. « Oui, mais n'essayez pas de courir. » « Je vous assure, gendarme, que je n'en ai pas envie. »« Oui, oui, vous autres, vous dites toujours ça. »« J'en suis d'ailleurs tout à fait incapable. »« C'est bon, je la connais. » »« Vous pouvez vous en rendre compte. »« Attendons le brigadier pour cela. » J'ajoutais. « Cependant, gendarme, vous devriez bien faire une chose. » « Laquelle? Vous laissez courir ?»« Non, courir vous-même. »« Moi ? Oui, courir après les chenapans à qui je donnais la poursuite. » Cette idée parut sans doute extrêmement comique au gendarme Marolais, car il partit d'un grand éclat de rire. Un rire de gendarme a quelque chose d'olympien. « Non. » Courir après eux quand ils sont déjà loin comme ça, et vous laisser là, vous, pour que vous vous esbigniez pendant ce temps, non. Vous en avez de bonnes, vous. » Je voulus néanmoins parlementer. « Cependant, gendarme, repris-je, je vous assure que vous feriez une chose utile, en voyant seulement quelle direction prennent ces hommes. Et je viendrai vous le dire, je vous en serai très reconnaissant. D'autant plus que je ne vous retrouverai pas. » Et riant de nouveau plus fort, Marolais ajouta, « Alors, pour qui que vous prenez la gendarmerie? Pour des gourdes? Qu'on peut leur faire avaler des bêtises pareilles? Vous voulez que je cours après vos camarades? Que je ne peux rattraper? Pour que je vous laisse là, vous, que je vous permette de filer quand je vous tiens, à d'autres, mon bon. Si vous ne connaissez pas la gendarmerie, eh bien, vous allez commencer à la connaître. J'en serai flatté, et je vous assure que nous nous entendrons très bien. C'est bon, mais voilà le brigadier. Tenez, faites-lui votre proposition, à lui. S'il accepte, ça va. » Le brigadier arrivait au petit galop de son cheval. « Ah ah, vous en tenez un, Marolais ? » ?»« Oui, brigadier, et un qui n'est pas ordinaire. » « Vraiment, on verra ça. » Le brigadier alors se tourna vers moi. « Allons, Oust, debout. »« Brigadier, lui dis-je, debout, je ne demande pas mieux que de me mettre debout, mais avec la meilleure volonté du monde, cela m'est impossible. Pourquoi? Vous n'avez plus de jambes? Si, mais elles ne valent guère mieux que si elles étaient absentes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je vais vous le dire. Vous trouvez donc un grand plaisir à rester dans la boue? Pas du tout. Si vous êtes si fatigué, il fallait vous asseoir sur le rebord du chemin, par là. C'est malgré moi. Ce n'est pas moi qui me suis assis de mon plein gré. J'ai été forcé. » Le brigadier se tourna vers son subordonné. « C'est vous, Marolais, qui lui avez dit de s'asseoir là ?»« Pas du tout, brigadier. C'est la pelle. »« Hein, la pelle ?»« Le particulier est tombé de vélo. »« Ah, je comprends. » Il se tourne encore vers moi. « Vous êtes tombé de vélo. Vous ne savez pas bien monter ?»« Si, suffisamment. Seulement, je n'ai pas vu cette pierre et le vélo ne m'allait pas très bien. » »« Il n'est donc pas à vous ?»« Non, brigadier, je l'ai emprunté. » »« Emprunté, oui, je sais ce que cela veut dire. Je l'ai pris, si vous aimez mieux. C'est la même chose. je l'ai pris aux chenapans qui venaient piller la villa. Hein ? Vous ne leur avez pris ? Pour la bonne cause. Hein ? Pour les suivre. Les suivre ? Filer avec eux ? Non, derrière eux.
Ça revient au même.
Je me comprends. Et vous appelez ça la bonne cause ? Vous êtes un farceur, vous.
Le brigadier, évidemment, croyait que je me moquais de lui.
Mais pouvais-je, ici, à cette heure, dans cette situation, essayer seulement de me disculper, de me faire même comprendre de ces deux représentants de l'autorité ?
Le subordonné, qui m'avait déjà entendu, riait dans sa forte moustache. Et le brigadier tiraillait la sienne, en grommelant je ne sais quoi. Puis, je ne pouvais dire quoi que ce fût pour me disculper. Donner la moindre explication était impossible. Toutes les apparences étaient donc contre moi. On m'avait vu sauter du toit, filer derrière les chenapans, tout autre même que ces bons gendarmes s'y seraient infailliblement trompés. Cependant, l'ouragan, après un moment d'accalmie, reprit avec plus de rage. « On ne peut pas rester là toute la nuit, » dit fort justement le brigadier.
« C'est pas possible, » fit Marollet. Et j'appuyai moi du refrain classique. « Brigadier, vous avez raison. »
Le brigadier me dit alors. « Allons, Mousse, mon garçon. » « Faut quand même partir, levez-vous. »«
Je vous assure, brigadier, que je ne le peux pas, je suis tombé de vélo, à toute allure. Je suis sinon blessé, du moins fortement endommagé. Je n'ai rien de cassé, mais je suis en mauvais état. »
Le brigadier répéta, « Un peu de courage, essayez. » Je tentai de me lever, ce fut impossible.
« Donnez-lui la main pour qu'il se mette sur pied, » dit encore le brigadier à Marollet.
Marollet descendit de son cheval et me prit par les épaules. Tant bien que mal, grâce à lui, je parvins à me tenir debout.
« Eh bien, mais ça va !» s'écria le brigadier. « Allons, en route !»
Ah ! Marcher me fut interdit. Mes jambes flageolaient, et si ce bon Marollet ne m'avait pas retenu, je serais encore tombé sur la route.
« Brigadier, dit le subordonné, cet homme ne peut pas se tenir.
« Hein ? Comment on va faire ? Fit le brigadier, très perplexe. « On peut pas le laisser là, puisqu'on l'a pris et il peut pas venir. « Ça se complique rudement. » Il faut cependant qu'il aille, et que nous arrivions. »
C'était un grave problème, en effet, qui se présentait à l'esprit du brigadier.
Comment faire ?
Moi, je me gardais bien de donner la moindre idée, d'autant que la seule qui, en l'état, me semblait possible, me paraissait irréalisable. Cependant, j'eusse voulu pour beaucoup qu'on décidât quelque chose. Je grelottais de froid, et mes écorchures me faisaient souffrir de plus en plus. Il me tardait vraiment d'avoir un secours quelconque, un pansement. Les gendarmes délibérèrent un moment, puis enfin ils adoptèrent une décision magnifique. Marollet allait me céder son cheval. Il prendrait ma bicyclette qui, fort heureusement, était demeurée en bon état malgré ma chute. Non sans peine, Marollet me poussant, le brigadier me tirant, on parvint à me hisser sur le cheval du gendarme. Le brigadier prit en main les rênes de l'animal et passa devant. Marollet vint derrière, sur le vélo, moi au milieu en fort piteuse mine. Nous voilà en chemin. Dans cet apparat, nous entrâmes dans la bonne ville de Melun. De temps en temps, le brigadier se tournait vers moi. « Eh bien, mon garçon, » me demandait le brave homme, « ça va-t-il ? » Et l'on dit que le gendarme est sans pitié. « Je proteste. » Nous entrâmes dans Melun comme le jour commençait. Déjà, les gens se rendaient aux champs, à leurs usines ou à leurs chantiers. Notre équipage ne fut pas sans arrêter la curiosité, sans susciter des plaisanteries plus ou moins spirituelles. Jamais on n'avait vu un prisonnier faire route sur le cheval du gendarme. Et j'eus la sensation que parmi ceux qui virent passer ce singulier cortège, ceux qui lancèrent les plaisanteries les plus grosses, devaient se trouver les deux hommes à qui j'avais donné la chasse dans la nuit, les deux complices de ceux que Martin Numa avait arrêtés. Mes yeux cherchaient à les deviner, à les voir dans la foule qui nous escorta jusqu'à la gendarmerie, dont la lourde porte ouverte se referma sur moi.